Métropolez-vous.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission présentée par Éric Dupri.
Merci d'être fidèle au rendez-vous de Métropole et vous. Vous le savez, si vous écoutez régulièrement cette émission, Toulouse est depuis janvier 2015 une des 17 métropoles françaises. Et on peut dire, sans chauvinisme excessif, que c'est une des plus connues dans notre pays. On entend souvent parler dans les médias de les métropoles toulousaines et de ce qui s'y passe. Beaucoup de Français ont une bonne image d'elle et nombre de nos concitoyens envient même ceux qui y vivent. Mais qu'en est-il au niveau international ? Toulouse et sa renommée dépassent-elles les frontières de l'Hexagone pour rayonner sur le continent européen ? Il se trouve que parmi les compétences de Toulouse Métropole, il y en a une dédiée aux affaires européennes. Une compétence affaires européennes à Toulouse Métropole, pourquoi faire ? Ce sera le sujet de ce numéro. Et qui dit compétence affaires européennes d'une métropole, dit vice-président chargé de celle-ci. À Toulouse Métropole, ce vice-président s'appelle Jean-Claude Dardelet et il est à mes côtés dans ce studio. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Jean-Claude Dardelet. J'ajoute que vous êtes également conseiller municipal délégué à la ville de Toulouse et président de l'agence de développement économique métropolitaine. Toutes ces casquettes laissent à penser que vous êtes très connu dans les milieux industriels et économiques, peut-être un peu moins en revanche parmi nos auditeurs, puisque vous êtes entré récemment en politique. Vous avez été élu municipal il y a 2 ans, au moment où Jean-Luc Moudin est revenu à la mairie de Toulouse. Qu'est-ce qui a pu motiver votre engagement politique, puis votre prise en charge du domaine des affaires européennes et du développement international à la métropole ?
Bonjour Éric Dupri, merci de me recevoir aujourd'hui. Qu'est-ce qui m'a engagé et qu'est-ce qui fait que j'ai rejoint l'équipe de Jean-Luc Moudin ? Mais tout d'abord, une rencontre, comme beaucoup dans la vie, des trains passent, des rencontres se font et j'avoue avoir fait une très belle rencontre il y a quelques années avec Jean-Luc Moudin qui m'a sollicité, c'était en septembre-octobre 2013, puis on a échangé à plusieurs reprises. Je pense qu'il y a un grand niveau de confiance qui s'est établi. Puis nous avons discuté de mon expérience sur les affaires européennes, parce que c'est un petit peu mon monde depuis 30 ans d'activité professionnelle, et surtout sur les sujets européens. Donc j'ai eu l'occasion de lui développer l'importance des sujets européens, puis des budgets. Quand on parle d'Europe, on parle évidemment de politiques européennes, etc., mais aussi de budget. Puis ce sentiment très humble d'avoir la sensation peut-être de faire évoluer certaines choses. Voilà, donc c'est une rencontre, une confiance réciproque, un engagement. Arrivé à une certaine époque de sa carrière ou de sa vie, on se dit, tiens, c'est peut-être le moment de rendre tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai pu faire. Et voilà, très humblement, j'ai l'impression que les choses avancent plutôt positivement.
Vous êtes encore en activité professionnelle aujourd'hui ?
Je suis toujours en activité professionnelle. Je m'amuse à dire que j'ai demi-temps de 12 heures par jour, à peu près. Donc oui, je fais partie de ce qu'on appelle le contingent de la société civile de Jean-Luc Moudin, parce que Jean-Luc a souhaité s'entourer de gens qui n'avaient jamais fait de politique, qui n'avaient jamais conduit d'affaires publiques, pour justement apporter sans doute ce sang nouveau, ce sang de...
Et notre vision, un œil neuf sur l'engagement politique et l'action politique.
Et surtout le lien entre les vitesses économiques et les vitesses publiques, les priorités économiques et les priorités publiques. Je pense que ce lien est important, plus jamais que maintenant, puisque, comme vous le savez, les choses changent à une vitesse de plus en plus vertigineuse. Et il faut que ces deux mondes publics et privés s'associent, s'entremêlent et des intérêts conjoints, plus importants.
Bien que vous ayez l'œil tourné souvent vers l'Europe et ce qui s'y passe, je pense que vous avez aussi l'œil tourné vers ce qui se passe dans la métropole. Et on va en parler tout de suite avec Corinne Saint-Félix et son bulletin d'information métropolitaine. Métropolez-vous, l'actu. Et pour ouvrir ce flash des nouvelles de la LGV, nous en avons déjà parlé, l'arrivée de la ligne à grande vitesse à Toulouse-Matabiau est un atout majeur pour le développement de la métropole toulousaine.
Et justement, Toulouse-Euro-Sud-Ouest est un grand projet de territoire qui doit préparer et accompagner ces évolutions et donner à Toulouse et à la région une nouvelle stature nationale et européenne avec une capitale régionale mieux connectée à ces territoires, une métropole qui rayonne aussi vers la France et l'Europe et un développement pour toute la région Midi-Pyrénées. La ligne à grande vitesse Bordeaux-Toulouse est au cœur de ce projet.
Sauf que ce dossier ne cesse de connaître des rebondissements.
Effectivement, il y a quelques semaines, Guillaume Pépi, président de la SNCF, déclarait que la ligne TGV Tours-Bordeaux serait le dernier chantier dans le domaine de la grande vitesse pour notre grand sud-ouest. Jean-Luc Moudenc, président de Toulouse Métropole, lui a alors demandé de réaffirmer sa volonté de contribuer à la réussite de la LGV Toulouse-Bordeaux et de garantir le respect des engagements pris par la SNCF dans ce projet.
Et quelle a été la réponse du président de la SNCF ?
Eh bien, il indique que l'instruction de cette ligne par l'État est toujours en cours et que c'est à lui et aux élus de prendre les décisions qui s'imposent, notamment ce qui concerne son financement. Jean-Luc Moudenc a lancé le 23 mars une pétition pour soutenir la réalisation de la LGV entre Bordeaux et Toulouse et elle a recueilli à ce jour 5000 signatures.
La semaine dernière, un événement important, l'inauguration de l'EPIDE à Toulouse en présence de deux ministres, Patrick Kanner, ministre de la Ville, de la Jeunesse et des Sports, et Myriam El Khomri, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.
L'EPIDE, c'est l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Il s'adresse aux jeunes peu ou pas qualifiés, éloignés de l'emploi et âgés de 18 à 25 ans. En intégrant un de ces centres, les jeunes pourront se concentrer sur leur projet d'insertion sociale et professionnelle pour une durée d'environ 8 mois en internat. Ils seront encadrés par une équipe de professionnels de l'éducation, de l'insertion professionnelle et du travail social, ainsi que par d'anciens militaires. Les 60 premiers volontaires du centre EPIDE de Toulouse seront admis dès l'ouverture en avril et à terme, le centre disposera de 150 places. La collectivité contribue à hauteur de 100 000 euros à l'investissement pour l'implantation de cet EPIDE.
Dans un tout autre domaine pour finir ce flash, Toulouse Métropole sensibilise les partis politiques contre l'affichage illicite.
Il est régulièrement constaté que de nombreuses affiches sont collées hors des sites autorisés, et ce qui dégrade l'esthétique urbaine. Un courrier a été envoyé à tous les partis en lice pour la présidentielle ou leurs partenaires. Il rappelle entre autres l'article de loi concernant l'affichage sauvage et l'obligation d'utiliser exclusivement les supports réglementaires pour procéder aux affichages. Et si un affichage illicite est constaté, Toulouse Métropole procédera à un enlèvement systématique à leurs frais. Cette opération sera ensuite refacturée aux parties concernées à hauteur de 12 euros par affiche retirée.
On va passer aux affaires européennes dans la métropole et c'est tout de suite notre focus de la semaine.
Métropole et vous.
Métropole et vous, le focus de la semaine.
Métropole et vous.
Deuxième partie de Métropole et vous avec notre invité Jean-Claude Dardelet, conseiller municipal de la ville de Toulouse et vice-président de Toulouse Métropole, chargé des affaires européennes et du développement international. Toulouse est une métropole qui abrite sur son territoire de nombreuses entreprises appartenant à des groupes de taille mondiale, Airbus en tête. Il y a un aéroport international, il y a de grandes écoles, des universités et des laboratoires reconnus, un pôle médical de pointe, des sportifs de haut niveau connus bien au-delà de nos frontières, un orchestre symphonique qui est parmi les meilleurs du continent, et puis je ne parle même pas de tous les étudiants qui viennent d'un peu partout dans le monde, y compris bien sûr des pays d'Europe. Alors je me disais, toutes ces structures doivent très bien fonctionner toutes seules. Alors pourquoi cette compétence affaires européennes à la métropole ? Qu'est-ce que ça apporte ? Quel est son rôle ?
Son rôle, c'est d'apporter des liens. Et très humblement, j'allais dire, d'apporter des budgets. Je pense être l'un des seuls, sinon le seul élu, à rapporter de l'argent à la métropole.
C'est bien de le dire.
Voilà. Et alors, je pense que l'Europe, tout le monde aime l'Europe, mais tout le monde voudrait une Europe autrement, et donc tout le monde critique l'Europe, un petit peu comme un appel au secours. Je te critique, mais j'ai tellement besoin de toi que j'ai tellement besoin que tu t'améliores. Voilà. Donc, en quelques mots, l'Europe, c'est quoi, si je veux le résumer très brièvement ? C'est des politiques, ce sont des élus, ce sont des fonctionnaires. Donc, ce sont trois structures, le Conseil qui représente les gouvernements, le Parlement qui représente les peuples et la Commission qui est la gardienne du traité, qui a le pouvoir d'initiative. Voilà, quand on a dit ça, on a quasiment tout dit sur l'Europe. Alors, quand on parle de la Commission et ce pouvoir d'initiative, la Commission a un budget de 1000 milliards d'euros, excusez du peu, sur la période, c'est-à-dire ça fait à peu près 140 milliards d'euros à dépenser chaque année, qui vont, pour ce qui nous concerne, pour une grande partie dans les fonds de cohésion, piloté, l'autorité de gestion était la préfecture jusqu'à il y a peu, et depuis 2 ans, c'est la région qui en est devenue l'autorité de gestion. Donc pour le Midi-Pyrénées, c'est un montant de 470 à 480 millions d'euros, si j'ai bonne mémoire. Dans la nouvelle région, on arrivera probablement dans les 800 millions d'euros ou 750. Oui. Voilà, dans ces fonds de cohésion, il y a ce qu'on appelle le FEDER et le FSE, donc des fonds de développement et des fonds sociaux. Alors il y a aussi le FEADER pour les sujets agricoles qui concerne marginalement la métropole. Mais voilà, moi, un de mes principaux sujets, c'est de faire en sorte que la métropole bénéficie au maximum et dans les meilleures conditions de ces fameux fonds FEDER. Donc là, il y a déjà pas mal d'argent. Mais au-delà de ces fonds, et ça, je pense que ça a été historiquement oublié, négligé, ou je ne sais pas, il y a d'autres fonds, des fonds de recherche, les fonds Horizon 2020, dotés de 80 milliards d'euros, c'est pas rien non plus. Et il y a par exemple un agenda urbain, c'est-à-dire Bruxelles, c'est enfin rendu compte, je pense qu'ils le savaient depuis longtemps, mais les régions porteuses d'avenir sur le modèle allemand des Länder a évolué vers une Europe des villes et des métropoles. D'où l'agenda urbain qui est doté de pas moins de 5 à 600 millions d'euros par an, qui étaient peu vus ou pas vus et sur lesquels, eh bien aujourd'hui, on développe une action, on renforce des réseaux avec d'autres villes, parce que des fonds européens sont accessibles à certaines conditions. C'est-à-dire, il faut avoir des partenaires, il faut avoir des intérêts partagés, il faut avoir des innovations sur des sujets qui intéressent les politiques européennes. Les politiques européennes, c'est les transports, c'est l'énergie, c'est l'environnement, c'est la sécurité, c'est les migrants maintenant, voilà, tous ces sujets qui sont au cœur de notre actualité, qui fait que si on arrive à développer des idées conjointement avec d'autres villes partenaires, on a des budgets européens très conséquents.
Et il faut ne pas rater le wagon, si je puis dire, lorsque ça se présente. Ces sujets, ces questions, les affaires européennes, l'Europe, la dimension européenne de Toulouse, nous les avons posées, nous les avons abordées avec des citoyens de la métropole. Nous sommes allés à leur rencontre dans le cadre de notre traditionnel micro-trottoir et nous leur avons demandé d'abord s'ils considéraient que Toulouse, métropole européenne, c'était une réalité selon eux.
C'est une réalité parce que déjà il y a un grand aéroport, c'est une ville étudiante, beaucoup de filiales étudiantes dont ça amène beaucoup d'étrangers.
Alors je pense qu'effectivement le potentiel existe aujourd'hui, mais je pense qu'on a pas mal de travail à faire au niveau de l'office du tourisme pour diffuser plus d'informations sur les monuments à mettre en valeur et des choses comme ça.
Non, ce n'est pas une grande réalité pour moi parce que ça pourrait être beaucoup plus développé. En faisant mieux connaître la ville, stratégiquement, géographiquement, hein, et heureusement qu'on a Airbus.
Je pense qu'on veut devenir effectivement au niveau touristique déjà une grande métropole et on l'est déjà aussi grâce à Airbus.
Qu'est-ce qui peut participer à la renommée, au rayonnement européen de la métropole toulousaine selon vous ?
L'aérospatial attire beaucoup de monde, d'étrangers.
Son histoire déjà, puis nos savoir-faire. Et il faut vraiment compter sur l'aéronautique comme un gros atout. On s'en sert, mais à mon sens, pas suffisamment.
Ce qui peut participer, c'est la qualité de vie qu'on a ici. Ça peut être aussi les entreprises et les grandes entreprises qui peuvent venir. Ça peut être aussi le tourisme, parce que Toulouse est plutôt une ville de passage. Mais je pense qu'il faudrait que les gens s'arrêtent un petit peu plus pour découvrir tous les joyaux qui sont dans Toulouse.
Les affaires européennes à Toulouse Métropole, à quoi ça peut bien servir ?
Je pense que ça peut servir au niveau des échanges, peut-être au niveau des étudiants, faire que Toulouse se rayonne davantage à échelle européenne au niveau des universités.
Se faire mieux connaître dans le monde entier, il y a beaucoup à faire au niveau communication.
Les affaires européennes, ça peut inclure effectivement des grands projets qui peuvent être financés par l'Europe. Et je pense qu'un service des affaires européennes au sein de la métropole peut être important et avoir son rôle à jouer pour permettre à Toulouse d'avoir des subventions et de pouvoir rayonner encore plus grandement au sein de l'Europe.
Alors voilà, dans ce micro-trottoir, la dernière intervention rejoint un peu ce que vous nous disiez il y a quelques instants sur les missions, les actions que vous pouvez mener aux affaires européennes à la métropole. Est-ce qu'il y a d'autres interventions qui ont retenu votre attention ?
Moi je trouve que ce Radio Crochet résume très bien tout ce qu'on vient de dire. C'est-à-dire une attente, cette dame qui nous dit, en gros, il y en a pas, mais il y a des choses à développer, il y a des attentes. Donc on sent que, c'est pas qu'on n'y croit pas, c'est qu'on se dit, il y a un gisement qui n'est pas exploité. Donc là, on est au cœur du sujet. Ensuite, dans les notes que j'ai prises pendant ce radio-crochet, j'entends le mot étudiant. Alors, faut savoir qu'on a la deuxième université de France, que cette université, alors même si l'IDEX, c'est encore un sujet qui mérite d'être clarifié, encore dans un contexte d'unité, de transversalité.
C'est quoi l'IDEX, excusez-moi.
L'initiative d'avenir, de développement, d'excellence à Toulouse, qui fait que l'État dote nos universités d'un montant important, à condition qu'elles fassent des diplomations communes et qu'elles s'entendent. C'est un sujet important. Donc le monde des étudiants a été évoqué. Sachez que nos universités n'ont pas moins de 1500 accords internationaux dans pas moins de 110 pays. On a là un gisement de coopération internationale, de même qu'au niveau de notre CHU, hein, dans la santé, qui a aussi des accords dans pas mal de pays. Et ça a été l'un de mes sujets en arrivant, de dire, mais pourquoi ne mettons pas nos destinations en commun? Pourquoi, quand quelqu'un va dans un pays, n'y allons-nous pas ensemble, où chacun y va, par mesure d'économie, en défendant les intérêts des uns et des autres? C'est-à-dire, travaillons ensemble. Alors, j'aime pas bien le mot meute, parce que c'est un mot à la mode, mais ça ressemble tellement à la bataille du pont d'Arcole, avec le panache, etc. Moi, je préfère la notion de meute, où on met en place un réseau plutôt silencieux, avec des gens qui s'entraident, des gens qui, sans forcément faire peu de bruit, sont dans l'efficacité et dans le retour pour les économie toulousaine. Donc si je reprends les mots qui ont été utilisés, donc les étudiants, on en a dit un mot, l'aéroport, évidemment l'aéroport c'est la porte d'entrée. Toulouse ne peut pas se développer si on ne peut pas y accéder et en partir. Il faut faciliter les échanges, donc c'est l'aéroport. On a pour ambition de faire passer le trafic de 8 millions à 18 millions de passagers. Donc des investissements, des investisseurs qui vont venir pour enrichir un petit peu notre terreau économique.
Et de nouvelles lignes, je suppose, qui relieront directement à de grandes métropoles européennes sans forcément avoir à transiter par d'autres aéroports.
Alors effectivement, le jacobinisme à la française fait que tout doit passer par Paris. Mais le contexte européen veut que les capitales de nos nouvelles régions deviennent aussi des portes d'entrée des territoires. Donc Toulouse, effectivement, a cette ambition et est une capitale européenne. Enfin, on pourra le développer si vous voulez. Tant au niveau, alors le mot étudiant a été cité, le mot tourisme a été cité.
Oui, c'est revenu plusieurs fois, ça.
Le mot tourisme et c'est vrai, le mot joyau est arrivé. On parle du joyau toulousain. Alors évidemment, on a un patrimoine qui est considérable, qui est fantastique, qui sera mis en valeur. On a un projet de valorisation UNESCO, de labellisation UNESCO. Et je vais vous donner un exemple de l'importance des relations international. J'étais au Vietnam il y a 15 jours où nous allons renforcer nos coopérations avec la ville d'Hanoï sur le sujet de leur citadelle qui est construite en briques, qui a les mêmes préoccupations, les mêmes soucis et les mêmes ambitions en termes de mise en tourisme de leur patrimoine que Toulouse. Seulement eux l'ont déjà réussi et ont déjà le label UNESCO. Et entre parenthèses, le Vietnam est un petit peu à la tête ou coordonne, on va dire, 21 pays asiatiques susceptibles de voter pour les labellisations UNESCO.
J'ai compris l'allusion.
Donc d'aller les voir, de lancer des coopérations d'intérêt mutuel, voilà, l'enrichissement international, il est là aussi. Donc la mise en tourisme. Donc on a parlé d'étudiants, de mise en tourisme, et puis j'allais dire la chose la plus importante, c'est le développement économique. Si on fait tout ça, c'est pour que des investisseurs viennent, des entreprises, des gens qui viennent s'installer, qui viennent prospérer, créer des emplois.
Et alors il était question, une personne a repris ce dont vous parliez tout à l'heure, les grands programmes européens dans lesquels il faut absolument arriver à s'inscrire. Encore faut-il avoir des projets qui peuvent s'y inscrire. Est-ce qu'il y a aujourd'hui, parmi les grands projets de la métropole, certains d'entre eux qui sont concernés par des programmes européens?
Là, on a réussi quelque chose d'important, inattendu pour beaucoup, mais très humblement, ça fait quelques années, enfin un mois, un an et demi ou deux que l'on s'y consacre, puisque avec cette cellule Europe, ce projet européen que l'on a à la métropole, ça fait 2 ans maintenant que l'on a lancé l'initiative de cycle de conférences, d'informations auprès de nos acteurs économiques. Alors, auprès de nos services de la métropole, hein, on a, dans chaque service de la métropole, on a maintenant un référent européen qui a pour mission de faire remonter les besoins des politiques publiques de la métropole, parce que si on fait tout ça, c'est pas pour inventer des nouveaux projets, c'est avant tout pour servir les projets que nous avons, les engagements que nous avons pris devant les Toulousains. Donc, c'est pour servir ses intérêts, ses engagements. Donc on a des référents par service et nous communiquons, nous informons aussi tous nos partenaires, qu'ils soient universitaires, de la santé, partenaires économiques, structures satellites de Toulouse. Et j'ai eu l'occasion de faire un certain nombre d'interventions auprès de TICO, auprès d'autres structures. Et puis, de proche en proche, on plante des petites graines. Et puis, sur une phase d'étude de TICO à hauteur de 20 millions d'euros, eh bien, Bruxelles nous a apporté 9 600 000.
Donc, ça veut dire que, par exemple, le projet de la troisième ligne de métro pourrait très bien s'inscrire dans le cadre d'un programme européen, en tout cas toucher des subventions.
Alors, de manière peut-être plus subtile qu'un financement à la faveur de la réalisation de la ligne. Parce que Bruxelles a des politiques à la faveur d'une Europe de la connaissance, l'Europe de l'excellence, voilà. Donc je pense pas que Bruxelles finance l'installation de lignes au sens propre. En revanche, toutes les innovations en termes d'économie d'énergie, en termes de valorisation que l'on pourrait développer conjointement avec d'autres villes, s'il y a une vertu cohésive en Europe, s'il y a une vertu de développement et de rayonnement international, oui, là, Bruxelles pourra financer à hauteur de 50% un certain nombre de sujets.
Est-ce que vous êtes amené aussi, dans le cadre donc, de votre compétence Affaires européennes à la métropole, à aider des associations qui ont des projets, qui eux peuvent aussi s'inscrire dans des programmes, à les aider en termes de compétences, d'explications, de pédagogie peut-être ?
Oui, alors là, je découvre un monde qui m'était pas familier, mais dans lequel je me trouve très heureux. C'est le monde, j'allais dire, de la culture. Où, pour répondre plus précisément à votre question, je découvre des structures qui aimeraient adresser ces fonds. Et évidemment, nous les informons, on leur explique que oui, il y a un processus administratif qui peut paraître un petit peu casse-pied à première vue, mais en général, Bruxelles a la gentillesse de nous dire ce qu'il faut répondre pour gagner et de poser les questions. Ensuite, donc après c'est un exercice de rigueur, après il faut être un petit peu innovant, etc. Mais je découvre des associations qui sont brillantissimes dans la capacité à ramener de l'argent, la grainerie, le lido dans le monde du cirque.
Oui.
Nos circassiens ont un vrai talent pour aller chercher des fonds européens. Nous avons quantité d'artistes, y compris dans le monde l'environnement, hein, la lutte contre le réchauffement climatique, etc., qui ont des vrais talents. Voilà. Donc on essaie de faire se rencontrer tous ces gens pour travailler ensemble et bénéficier des talents de chacun.
Parce que moi j'ai toujours entendu dire que les dossiers que l'on monte pour toucher de l'argent de l'Europe, dans le cadre de ces programmes, sont lourds et compliqués. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est si compliqué que ça ? Pour ceux qui nous écouteraient, qui auraient des velléités dans ce domaine.
Comme tout ce qui est nouveau, ça inquiète. Quand quelqu'un se dit, tiens, demain je réponds à un appel d'offres, il va trouver le formulaire, il va se dire, tiens, déjà, il faut que je parle anglais, bien que le français soit une langue officielle, etc. Bon, après encore, vous avez en général ce qu'on appelle un guide des critères. Alors, le guide des critères, c'est vrai, c'est 200-300 pages, il faut les lire. Et puis, vous avez l'appel d'offres, et donc il faut prendre le guide des critères et répondre en fonction du guide des critères. C'est aussi simple que ça.
Après, c'est très précis, je crois qu'il y a un suivi derrière, il faut justifier vraiment toutes les dépenses qu'on engage au titre des subventions qu'on touche.
Est-ce que cela surprend quelqu'un de devoir justifier de l'argent public ? Ce qui serait surprenant, ce serait que ça surprenne quelqu'un.
Mais il y a des gens que ça peut surprendre, en tout cas que ce soit compliqué.
Oui,
que
oui.
Ce soit compliqué.
C'est pas compliqué, c'est rigoureux. À partir du moment où on applique la règle, on répond aux questions simplement, sans inventer autre chose. Les examinateurs, les experts évaluateurs sont pas des méchants.
Pour revenir à une question qu'on avait posée dans le micro-trottoir sur la renommée et le rayonnement européen et même international de Toulouse, vous qui vous déplacez beaucoup à l'étranger, en particulier en Europe, quand vous dites « je viens de Toulouse », qu'est-ce qu'on vous dit tout de suite ? Ah, Toulouse, c'est Airbus, qu'est-ce qui vient en général tout de suite à l'esprit des gens quand vous dites que vous êtes Toulousain ?
Alors, il y a deux réponses. Il y a celle des Toulousains, voire des Français, ou des amis des Toulousains, puisque en général, enfin beaucoup de Toulousains viennent depuis quelques années ou dizaines d'années d'ailleurs, hein, et on est persuadé d'être le centre du monde. On a tout pour, ceci dit. Hein,
oui, c'est bien de le savoir et de le dire. Hein,
voilà, ouais. On a tout pour. Après, quand on voyage, on se rend compte que Toulouse, au mieux, est une perle du sud-ouest, ville de la gastronomie, du foie gras et alors oui, ville Airbus, on se convainc d'être la ville des hautes technologies. Si vous allez dans un certain nombre de capitales, alors en Europe, oui, je pense qu'en Europe, on est quand même assez connu pour quand on voit tous les Européens qui souhaitent venir, s'installer, etc., l'attractivité est grande. Quand on quitte l'Europe, sur l'Asie, sur même les États-Unis, on a quand même de la promotion à renforcer, on a des vraies actions de promotion d'attractivité à renforcer, oui.
Et cette communication, vous pouvez la mener, vous, au niveau de votre compétence affaires européennes, développement international, ou c'est dévié, si je puis dire, vraiment à une communication globale de la métropole ?
Ah, on a lancé des assises économiques en début de mandat qui ont rassemblé près d'un millier d'acteurs de la métropole, public et privé, où on a fait un constat de situation, on a dressé des pistes et on a lancé un certain nombre de projets, justement, des pistes pour... Alors un projet, c'est quelque chose qui ne pourraient se développer dans une structure normale. Donc c'est ce qui sert à pousser les murs, à ouvrir les portes et à aller plus loin. Ensuite, on a créé l'agence d'attractivité qui résulte de la fusion de l'activité convention bureau, office du tourisme et Invest in Toulouse. Donc en gros, tout ce qui concerne toutes les actions qui permettent de faire venir des gens à Toulouse, qu'ils soient touristes, organisateurs d'événements ou investisseurs. Donc là encore, on fusionne nos ambitions et nos forces pour augmenter notre force de frappe.
Merci Jean-Claude Dardelet pour toutes ces précisions et informations. C'était un plaisir de vous recevoir à Métropole et vous. Pour ceux qui s'interrogeraient sur la raison d'être d'une compétence affaires européennes à Toulouse Métropole, j'espère que cette émission aura permis d'en savoir plus sur son contenu et les actions qui sont menées dans ce domaine. Toulouse est une métropole qui a beaucoup d'atouts à faire valoir au niveau européen dans de nombreux domaines. Il faut qu'on en soit tous conscients. Ce numéro de Métropole et vous était animé par Éric Dupri à la technique Francky Guéret. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro. D'ici là, passez un bon week-end et n'oubliez pas, métropolez-vous bien.
Merci.
Métropolez-vous.
Métropole et vous.
Métropolez-vous, une émission en partenariat avec Toulouse Métropole.